Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau généralisé.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job?
Patati et patata.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances, et patati et patata, pour remettre de l'ordre dans tout cela. On a demandé à notre experte du jour, Stella Walter, VP of People chez Luco. Alors, enchantée de t'avoir parmi nous.
Bonjour alors, à tous les deux, je suis enchantée d'être là.
Alors, Luco, je vais le présenter en quelques mots, mais après on va te laisser effectivement le soin de le faire. On va présenter les grands chiffres. Mais moi, ce qui me fascine, c'est passer de 30 à 130 collaborateurs, donc 130 collaborateurs aujourd'hui, dans l'espace de la crise sanitaire, c'est ça?
Exactement, une année de Covid.
C'est incroyable.
Exactement.
Donc Luco, on le définit comment? Licorne française,
alors, oui,
dans l'assurance, mais qu'est-ce qu'on dit?
Alors oui, en effet, on nous qualifie souvent de licorne ou future licorne française. Avant tout, ce qu'on est, c'est qu'on est une assurance habitation digitale, 100% digitale, donc en ligne, et qui se veut plus simple, plus facile d'usage, et dont l'objectif est de replacer la confiance entre l'utilisateur et donc l'assuré et l'assurance au cœur de la relation.
Voilà. Ok, donc c'est quoi finalement, c'est le parcours est plus simple, on arrive plus vite à réserver.
Exactement, en fait le parcours est beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'entre le moment où tu souscris et puis tout le temps d'usage du produit jusqu'au moment où potentiellement, parce que c'est un peu là que tout se joue, potentiellement on peut être amené à avoir un sinistre, toute l'expérience elle est simplifiée. Et puis finalement, à ce moment qui est le moment clé où potentiellement on vit un sinistre et où là c'est là que tout se joue dans la relation entre l'assureur et l'assuré, on fait en sorte que tout soit plus simple, donc de pouvoir déclarer son sinistre plus facilement
en ligne.
Ouais. D'avoir quelqu'un, donc un être humain qui répond et puis de manière instantanée qui aide avec empathie, avec des vraies solutions concrètes à solutionner le sinistre, une prise en charge rapide. Beaucoup plus rapide que des assureurs traditionnels. Mmh. Et puis voilà, l'accompagnement.
Aussi. Voilà. Ouais, voilà.
Et après, on va aussi accompagner sur toute une série de services autour, donc pour prendre soin de la maison. Donc pas uniquement solutionner le sinistre, mais aussi, par exemple, quand on a des dégâts des eaux, ce qui représente la majeure partie des sinistres, parfois on a des problèmes de peinture, on a des problèmes de décoration, on a des problèmes qui peuvent s'associer, qui sont des problèmes complémentaires, et nous on vient accompagner le foyer.
Un peu comme les banques en ligne ont fait il y a quelques années, finalement c'est un peu le même process, le même parcours.
Exactement, et avec une vocation qui est vraiment pas juste d'être l'assureur en cas de pépin, mais d'être vraiment le compagnon du foyer et d'être
d'avoir
une vision un peu
ouais. C'est mignon.
Et on dit beaucoup que alors c'est très on a beaucoup d'anglicisme comme une vraie licorne, une vraie future licorne, comme une vraie start-up, mais on parle beaucoup de la vision home care chez nous, donc qui est vraiment la vision donc tout autour du foyer, de prendre soin du foyer, qui est pas juste une vision solutionner le problème, mais d'apporter de la valeur au quotidien et créer de l'engagement.
Ouais, parce que c'est vrai que du coup on voit une assurance comme une obligation.
Exactement.
Et là vous essayez de remettre, donc Luco essaie de remettre l'assurance en fait en mode friendly, si on reprend un anglicisme. En gros, c'est quoi? Comment c'est le vrai paradoxe, c'est de dire on a des boîtes aujourd'hui qui à la fois automatisent, digitalisent et ont la prétention et la réalité de dire on remet l'humain au centre. C'est quand même dingue en fait.
Mais je crois que c'est ça, c'est ça l'ambition des startups telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est vraiment d'arriver à créer finalement le meilleur des mondes. Et c'est, sans être dans le cliché, je pense que c'est beaucoup les attentes d'une génération, d'une nouvelle génération aussi, qui est un produit simple, donc pas de contraintes, je dirais, techniques, et d'être facilité au quotidien dans ses usages. De pas se créer
parcours
des
client,
montagnes
quoi.
Administratives, etc. C'est pour ça qu'on aide aussi à changer d'assurance, c'est pour ça que qu'on fait tout le parcours via une application, etc.
Ah oui, c'est-à-dire que même, il faut le préciser, c'est Luco qui se charge de résilier ton
Absolument.
Ancienne assurance, comme
ouais.
Free, pour pas les citer, mais qui, lorsque tu changes, s'occupe de garder ton numéro, appeler ton ancien opérateur, résilier, etc.
Ouais, on fournit ce service qui est très, très apprécié, je vous laisse imaginer.
On imagine bien, on en a parlé avant
de. Et on était nombreux à en bénéficier aussi, même en interne, donc c'est quelque chose qui est hyper apprécié. Et oui, ça fait partie de la démarche d'aider un potentiel futur client à résilier son assurance précédente, parce que c'est compliqué de résilier son assurance aujourd'hui en France. Donc on accompagne tout ça et en fait surtout on rétablit un peu la confiance, que tu le disais assez justement. Aujourd'hui, l'assurance habitation, je pense que c'est une grande partie des gens qui, tu leur demandes quelle est leur assurance habitation, ils sont même incapables de te la citer. Ouais. Et l'autre partie, souvent, c'est parce qu'elle a eu une expérience désagréable. Donc souvent, elle a eu un sinistre et elle a justement eu cette expérience qui ne s'est pas forcément toujours bien passée. Et nous, on veut vraiment recréer cette relation. Pour que quand tu penses à ton assurance habitation, tu penses à elle en termes positifs et que tu aies confiance en sa capacité à t'accompagner dans les moments où ça va être plus difficile. Ça passe par différentes choses, ça passe notamment par ce que nous on appelle le give back. Le give back c'est assez simple, c'est une partie de nos fonds en fait, on a deux poches. On a une poche qui est une poche de 70% qui est dédiée à tous les frais de roulement de l'assurance et à la gestion du quotidien, des équipes, du produit, etc., la technologie, du business model. Et on a 30% qui est dédié au remboursement des sinistres potentiels lorsqu'ils arrivent. Et en fait cette enveloppe là parfois la balance est positive, parfois elle est négative. Lorsqu'elle est positive, la plupart des assureurs traditionnels ils se surrémunèrent sur la base de cette enveloppe. Nous, on a décidé, parce qu'on estime que ça finalement pose les bases de la confiance, que cette enveloppe-là, on n'y touchait pas et on reverse le surplus potentiel à des associations. Mmh. Associations que la personne qui a souscrit l'assuré choisit.
Voilà. Ah, c'est très bien.
Et donc, si tu veux, quand tu te retrouves dans une position où finalement il n'y a plus tellement d'enjeux avec ton assurance parce que tu sais que si jamais tu n'as pas de sinistre, c'est le meilleur des mondes et puis ça va être reversé à une association. Et puis si c'est un sinistre, la poche servira à rembourser potentiellement les sinistres. Il n'y a plus d'enjeux de confiance parce qu'on n'a plus d'intérêt en tant qu'assureur.
Et tout le discours, ce qu'on entend, c'est quand même l'humain en priorité. Combien de personnes aujourd'hui travaillent chez Luco? Combien sont en télétravail? Comment vous vivez en fait l'onboarding en fait d'un candidat? Enfin, toutes ces questions-là en fait nous intéressent, et particulièrement chez vous, mm-hmm. qui mettez l'humain au cœur de toute relation.
Ouais. Alors peut-être pour revenir, ça paraît un peu galvaudé de dire l'humain est au cœur de la relation. Je pense que c'est un discours que beaucoup d'entreprises à juste titre ont envie de tenir et qu'on a envie de tenir en tant que DRH notamment. On est quand même une start-up, donc une petite structure technologique où il y a un vrai enjeu d'expertise chez nous. Donc évidemment l'humain est important, mais il est particulièrement dans des entreprises où le cœur finalement du modèle il tient au talent en fait, aux équipes. Il tient à nos développeurs, il tient à nos gestionnaires de sinistres, il tient donc vraiment aux équipes qui créent le produit en fait, au quotidien et qui font en sorte.
Mais pour passer de 30 à 130, vous avez organisé tous les entretiens en vidéo, vous avez signé vos contrats à distance, vous avez.
Absolument, donc on s'est retrouvés effectivement à l'orée de la première vague à une trentaine d'employés à peu près, dans une entreprise où il y avait déjà des personnes qui travaillaient en 100% de télétravail contractuellement. C'est un peu philosophique chez nous et on avait déjà cette volonté d'avoir des équipes qui puissent travailler de là où elles le veulent. Évidemment, on était beaucoup moins matures à 30 personnes et avant cet épisode du Covid sur ces sujets-là.
Ça accélérait les choses, évidemment.
Je dois dire qu'on l'a vécu un peu comme. Alors au début, on s'est fait quelques sueurs froides, à peu près toutes les boîtes et tous les DRH professionnels de la fonction. Et une fois qu'on a repris un peu le pouvoir sur tout ça, on s'est dit en fait c'est une formidable opportunité parce que ça va nous forcer. À accélérer nos usages. Et donc accélérer nos usages, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une structure qui, paradoxalement, parce que c'est pas toujours ce qu'on met derrière une start-up, on s'imagine que le start-up c'est toujours un peu le bazar.
Oui, et puis à partir de quand on est une start-up?
Voilà, exactement.
À partir de quand on l'est plus?
Oui, on se dit start-up, voilà, il y a pas trop de process, ça se marre, ça joue au baby-foot, c'est un peu cliché, mais ça joue au baby-foot, et puis il y a pas trop de process, et puis beaucoup d'énergie, ils sont jeunes, etc. Chez nous, c'est un peu le contraire. On croit beaucoup que il faut processer, structurer au maximum l'organisation, parce que plus tu processes et plus tu structures donc ton onboarding, ton recrutement, etc., plus derrière tu peux laisser de liberté aux équipes et donc plus tu peux favoriser le télétravail.
Donc c'est des tâches les unes derrière les autres, c'est-à-dire que l'onboarding en fait on commence par l'entretien vidéo, ensuite on va se retrouver en fait dans une chaîne de recrutement et on va à un moment donné pouvoir signer son contrat, arriver le jour J, peut-être même des collaborateurs en vidéo qui peuvent vous dire comment on arrive, etc.
Absolument, donc en fait nous on avait un onboarding, on onboardait déjà des personnes qui pouvaient être à distance, mais on faisait quand même un point d'honneur à les faire venir dans les bureaux, les 10 premiers jours à peu près, pour qu'après ils repartent potentiellement en télétravail quand c'est leur format de travail. Mais on croit beaucoup aux vertus de se rencontrer, de small talk, d'avoir des discussions avec les gens, de les rencontrer, l'effet machine à café. On pense que ça a beaucoup de valeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on supprimera jamais les bureaux chez nous.
Là, je croyais les machines à café. Ouais.
Et jamais la machine à café, ce qui est quand même l'une des raisons pour lesquelles quand même on vient au bureau. Donc, ce serait dommage de la supprimer, cette machine à café. Et donc, en fait, pendant le Covid, temporairement, on a dû complètement digitaliser nos process. Donc, nos process de recrutement, c'était déjà le cas. On sait mener des process de recrutement en ligne à travers des vidéos, des entretiens vidéo. Et ça, on l'a un peu toujours fait, c'est-à-dire qu'on est capable d'embaucher des gens sans ne les avoir jamais rencontrés en vrai.
Et
en
fait, c'est presque... les intégrer alors.
Ah oui, absolument, ouais. Et par contre, l'exercice qu'on a appris à faire pendant le Covid, c'est d'arriver à créer un peu la magie et à susciter de l'engagement, c'est-à-dire parce que c'est facile de passer les informations, c'est facile de créer les bons process, de donner les bonnes informations, de faire en sorte que la personne, elle comprenne sa mission, ses objectifs, etc. Il suffit d'avoir les bons templates, les bons... Enfin, là, on a plein, des étapes dans le recrutement, dans l'onboarding qui permettent de le faire.
Ce qui est déjà d'avoir été clair sur la mission.
Oui, alors déjà...
Ça, c'est le verbe, mais c'est vrai que souvent...
Ouais, ouais. Nous, on utilise... Enfin, voilà, on a des petits outils. Il y en a un outil qu'on appelle... Alors, je suis désolée encore pour l'anglicisme, mais on a des noms francophones chez nous, donc il faut que je fasse l'exercice mental de traduire. C'est qu'on appelle la trial card, donc c'est la petite fiche de période d'essai. Et donc, on donne une vision à la personne sur... quelles
ça fait
sont
moins
ses attentes
en anglais déjà, hein, oui. Période d'essai. C'est cool, on va peut-être réutiliser ça.
Et en fait, évidemment, voilà, évidemment que ça ne veut pas dire... on a tous les objectifs à atteindre durant cette période qui est toujours... Il y a plein d'attentes derrière cette période d'essai. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, on ne garde pas les gens qui n'ont pas coché toutes les cases de la période d'essai. Ça veut dire qu'on donne, on crée un cadre commun pour que les personnes sachent où on les attend, où elles vont, etc. Et c'est hyper rassurant, en fait. Pour tout le monde, pour le manager, les équipes, la personne qui arrive. Voilà. Mais ce qu'on a appris à faire et qu'on ne savait pas faire, pour te répondre, c'est de créer de l'engagement dans un moment où tout est quand même, tous les repères sont un peu gommés, tout le monde est très perturbé. Et en effet, on travaille tous de chez soi. Donc on a créé des petits événements, on avait des... deux fois par semaine, et on a fini par l'arrêter parce que c'était vraiment le temps du confinement. Mais on avait des événements deux fois par semaine qu'on appelait les Lucofi. Alors on donne plein de noms avec Luco, déclinaison de Luco, mais c'était des petits cafés donc deux fois par semaine où il y avait une espèce de boat et puis qui invitait des gens qui n'étaient pas de la même équipe pour échanger ensemble. On a créé pas mal d'événements en ligne.
C'est un peu la loterie Teams, quoi.
C'est exactement le même principe. Et donc on avait créé plein de petits rituels. C'est important parce qu'en fait c'est important de savoir
ça t'oblige à rencontrer des personnes que tu n'aurais pas rencontrées même en physique.
Exactement.
Tu les aurais croisées sans pour autant leur parler, c'est ce
exactement qu'on... exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est important de scinder et d'avoir des moments qui sont des moments de synchronisation sur les objectifs, quels sont les objectifs, quelle est la mission de la boîte. Raphaël, notre fondateur, et Benoît qui est le cofondateur qui vont partager la vision, etc. Donc des moments qui sont des moments boulot et puis d'avoir des moments qui sont des moments d'échanges informels qui sont des purs moments d'engagement en fait au quotidien.
Ok, c'est très clair. Est-ce que c'est pas ça finalement qui caractérise un peu la start-up ? C'est d'avoir un patron qui puisse te parler en tant que patron et à qui tu puisses parler sans pour autant confondre les rôles demain lorsque tu parleras à la machine à café de ce que tu as fait le week-end, etc. Est-ce que c'est pas cette flexibilité, cette facilité d'échange, et je remets encore l'humain au centre du truc, est-ce que c'est pas un peu ça, une start-up, en fait ?
Ouais, je pense qu'une start-up, c'est une entreprise... alors, c'est une start-up, si on revient un peu au fondement, c'est une petite entreprise plutôt tech qui cherche son modèle. Donc, c'est avant tout une entreprise dont les codes changent un peu tout le temps.
En termes de croissance, vous êtes déjà à 150 000 assurés.
150 000 assurés, absolument. Okay. Ouais. 150 000 assurés,
vous cherchez plus
130 employés, donc en effet, ouais. C'est une liberté de ton, etc. Mais je crois que c'est surtout une start-up, c'est surtout une entreprise qui remet en question plein de d'usages qui sont devenus des vérités absolues. Exemple, on ne peut pas travailler en 100% de télétravail.
Et qui les
questionne.
Ouais.
40% des personnes, on a un contrat qui est 100% en télétravail.
Donc, alors, qu'est-ce que c'est du 100% télétravail? C'est du lundi au vendredi.
100% télétravail, ça veut dire qu'on a des employés dont le lieu de travail principal n'est pas au bureau et donc est chez eux. Mmh, et chez eux, ça veut dire...
Ça peut être avec ses salariés.
Voilà, exactement. C'est des contrats, en fait. Donc, ça peut être par avenant s'ils changent, mais globalement, c'est le contrat...
Oui, on rentre comme ça chez vous.
Avec une politique associée. Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être 100% télétravail chez nous? Ça veut dire que on va pouvoir travailler... d'un lieu de vie qui est pas forcément parisien. Donc on a pas mal de gens qui sont aujourd'hui à Marseille, à Nantes, à Lyon, à la campagne, dans des petits villages. On a des gens qui sont maintenant, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus cette année, qui est un peu notre challenge de cette année et des années à venir. On a des gens qui sont en dehors de France. Mmh. Donc on a des équipes, et pas seulement dans nos bureaux.
Avec des contrats d'expat.
Alors c'est
parce que d'un point de vue contractuel, c'est pas évident. On peut signer un contrat français et puis partir 6 mois en Thaïlande. Comment ça se passe?
Alors c'est un vrai bon point. Fiscalement, tu peux pas te permettre d'embaucher que les personnes soient françaises ou non françaises, mais tu peux pas les permettre d'avoir. On parle beaucoup de digital nomade et de tous ces mouvements, et en fait ils sont assez réglementés. Moi en tant que française, je peux pas partir une année complète, à Bali, travailler, parce que fiscalement, au bout de 3 mois, tu tombes dans des règles, et tu dois quand même t'acquitter d'un certain nombre de choses, et donc tu dois avoir un contrat qui est plus un contrat français du coup, mais un contrat local, un expatriation.
Du coup, il y a des boîtes qui sont en train de se créer pour accompagner
des entreprises. Et nous, la manière dont on fonctionne, donc pour rentrer un peu dans le dur du sujet, on propose 2 choses chez Luco. La première, donc en fait, on est parti du principe que quand on embauchait des Français en France, on voulait pas leur créer la contrainte du lieu de travail. Mmh. Et on trouvait ça, somme toute, un peu absurde et assez injuste de la créer pour les non-Français les Français qui avaient envie d'aller en dehors de France. Et donc, on s'est dit, comment on peut répondre à cette problématique-là? Donc, assez naïvement, au début, on s'est dit, bon, c'est un peu le start-up spirit. On s'est dit, bon, il y a forcément une solution. On va trouver. Et en fait, on s'est confronté à la réalité. Et on s'est dit, en fait, non, c'est un sacré bazar. C'est éminemment complexe. En effet, il faut avoir un contrat local, etc. Et donc, il y a différentes options. Soit, en effet, on a ouvert des bureaux et on ouvre des bureaux dans les différents endroits où on veut avoir des équipes, mais si c'est pas un enjeu business et qu'on n'a pas de bureau parce qu'on n'a pas de business dans certaines équipes, dans certains pays, on peut se poser la question de l'intérêt d'ouvrir des bureaux. Soit on peut utiliser d'autres dispositifs, et ces dispositifs, ça peut être par exemple le portage, qui se développe pas mal avec des startups qui se montent, qui accompagnent justement le portage.
Comment ça se passe concrètement, en fait, ce portage?
Alors, comment ça se passe? Et donc, il y a ce levier-là, il y a le levier du freelance également, qui est aussi une autre manière de recruter des personnes, par exemple des non-français en dehors de France. Alors, comment ça marche? Nous, on recrute maintenant avec ce mode de fonctionnement-là. Donc, on a recruté il n'y a pas longtemps un Indien en Allemagne, on a recruté un Bulgare aux Pays-Bas, et en fait, on veut...
C'est une série, ça.
Ouais, on a aussi. C'est important de le dire, parce que je pense que c'est là-dessus, on a eu envie d'être un peu locomotive et pas juste wagon. On a d'ailleurs théorisé toute cette approche chez nous qu'on appelle la no border policy.
Vous avez senti le truc et vous vous êtes dit, il faut absolument en fait qu'on soit un peu précurseur là-dessus.
On s'est dit et je pense que c'est un peu l'ADN de Raphaël et Benoît qui sont les cofondateurs de Luco. C'était le cas avec le télétravail qui est quand même arrivé avant le Covid, ce qui finalement n'était pas si répandu. Ils ont envie de participer à ce que beaucoup appellent le future of work, le futur du travail. Nous, on pense que c'est maintenant qu'on est en plein dedans, et que il faut un peu libérer les talents de la européen et mondiaux, de la bureaucratie qu'on a en France et en Europe. Et parce qu'on y croit profondément, on s'est dit, en fait, on va ouvrir la boîte de Pandore contractuel, parce que après ça implique des problématiques de fiscalité, ça implique des problématiques d'uniformisation des politiques, des avantages, etc. pour les salariés. Nous, on offre les congés limités, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les congés limités pour des talents partout dans le monde?
Mais alors, ça, les congés, comment ça se passe?
Comment ça se passe, les congés limités? Donc, contractuellement, nos salariés, évidemment, on est conformes avec le droit du travail français, parce que c'est toujours la question que me posent certains homologues. Donc,
là, on aurait été malin de diffuser ça.
Évidemment, donc voilà, nos salariés sont au forfait jour, ils ont des congés légaux, évidemment, ils ont des RTT, enfin des repos compensateurs, pour être précis, parce qu'on est sous convention Syntec, donc évidemment, ils ont tous ces droits, ces acquis qui sont liés à leur contrat de travail. On a une politique interne qui vient en surcouche donc des droits contractuels, qui autorise à prendre tant de congés qu'on le souhaite pour un milliard de raisons, tant que la personne atteint ses objectifs. En termes de performance. Donc
toujours ce cadre, en fait.
Hein. Exactement.
Toujours ce cadre.
Et comment tu le valides ?
Comment on valide ce cadre ? Nous, on part du principe que beaucoup de liberté et beaucoup de droits, flexibilité, vont avec beaucoup de responsabilités. Donc, c'est comment on crée ce cadre pour que les gens puissent bénéficier du maximum de liberté et qu'on ne vienne pas les chercher pour leur dire... où t'en es alors que c'est trop tard et que la personne est déjà en difficulté. Donc on travaille avec ce qu'on appelle des OKR, qui est ni plus ni moins qu'une méthodologie d'objectifs dans l'entreprise. Donc on crée des objectifs pour toute l'entreprise. Les OKR, c'est une méthodologie assez simple qui a été mise en place, je crois, par Google il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a au moins 10-15 ans. Donc c'est presque poussiéreux pour les GAFA. Pour les startups, ça devient quelque chose qui est assez natif parce que ça fait à peu près 5 à 7 ans que les startups utilisent ces modes de fonctionnement. Et je sais que pas mal de structures plus installées, de corporate, s'y intéressent et certains les ont mis en place. Les OKR, ça veut dire objective et key result. C'est une manière d'avoir des objectifs qui sont très macro, donc d'avoir un objectif pour l'entreprise et puis de cascader avec des sous-objectifs et que chacun dans l'entreprise puisse se retrouver possesseur, responsable de certains objectifs et comprendre en quoi ses objectifs à lui sont connectés aux objectifs de la boîte.
Ouais, d'accord.
Et ça s'anime au quarter, au trimestre, ce qui signifie que chaque trimestre, donc c'est très agile, puisque chaque trimestre on remet en question, donc évidemment il y a évidemment une cohérence, mais à chaque trimestre on n'attend pas une année avant de se dire tiens on n'en a pas, les objectifs sont plus pertinents, ou il faut les réévaluer à la hausse, à la baisse, etc. Et chaque trimestre on revoit les objectifs. Maintenant les équipes sont très familières de ça. Chaque personne, chaque employé propose ses objectifs, propose ses OKR individuels en fonction des objectifs de l'entreprise au quarter.
Comment il faut être, je te coupe, comment il faut être organisé ? C'est quoi les strates ? T'as un manager, c'est à toi N+1, direct au DG, à la DRH, donc à toi
Nous, on croit, alors, donc on essaye, et je pense que vous l'avez compris, on essaye de rendre les gens chez nous très propriétaires. Des différents sujets, des différentes briques
RH. La liberté sous contrôle.
Et c'est en fait, c'est
T'aimes bien ça.
c'est liberté, responsabilité. C'est vraiment... j'ai pas envie d'aller te chercher. J'ai pas envie, moi, en tant que... Donc, on croit déjà, premier disclaimer, on croit aux vertus du management.
Ouais.
Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui parlent d'entreprises libérées, etc. Ouais. Mais la libération, on pense qu'elle passe par plein de choses, mais elle passe pas par le no-management. Donc, on pense que le rôle du manager, il a un sens. Juste, on pense qu'il faut réinventer ce rôle du manager et que le manager, c'est un peu un coach qui va aider à accoucher finalement l'employé de ses propres objectifs, qui va l'aider à grandir, etc.
C'est faire grandir alors le manager.
Exactement. Il est facilitateur et c'est pas le sachant et l'apprenant, c'est pas le décideur et l'exécutant derrière. C'est un peu le contraire. Donc comment ça marche concrètement ? Beaucoup avec ces OKR, ce système d'objectifs, c'est-à-dire que les équipes vont proposer à chaque début de quarter, elles vont proposer à chaque début de trimestre leurs objectifs. Objectifs qui vont devoir être évidemment cohérents au sein de l'équipe, alignés avec la stratégie de l'entreprise. Donc comme tout est visible, c'est-à-dire qu'on communique l'ensemble de ces objectifs-là, ils sont visibles dans un système d'information RH. Donc
un énorme Trello, en fait.
C'est un énorme Trello.
On
utilise une solution qui s'appelle Lattice, qui est un outil de management de la performance. Et tout est visible. Donc personne n'ignore pourquoi il travaille et pourquoi il doit atteindre ses objectifs personnels. C'est le manager et évidemment les équipes, donc on les revoit en équipe, on les challenge en équipe. Souvent on a la personne qui est propriétaire de l'objectif, mais il a des contributeurs dans l'entreprise, donc chacun est hyper, c'est un espèce de mapping, tout est complètement modélisé, et donc chaque personne sait en quoi il contribue aux objectifs, et le manager est là pour venir challenger les objectifs, s'assurer évidemment que on a rien, il n'y a pas de trou dans la raquette et qu'on n'a rien oublié, et aider à fournir les ressources pour atteindre les objectifs et potentiellement pour coacher derrière la personne.
Alors vous êtes présent en Europe ?
Oui.
Espagne, Allemagne, d'autres pays ?
Alors c'est toujours pareil, il y a ces ouvertures, donc il y a les ouvertures business, donc effectivement Espagne, Allemagne qui est en train d'être en ouverture, France, et puis il y a là où sont nos équipes Et là, pour le coup, on est présent voilà, en Europe, dans plus de... On a 7 ou 8 pays dans lesquels on a des équipes, indépendamment de ces ouvertures. Voilà, donc c'est... Sur la dimension people, il y a un cadre qui est très large, puisqu'on a beaucoup de monde qui travaille de différents endroits. Et après, effectivement, on a les pays qu'on a ouverts ou qu'on est en train d'ouvrir actuellement.
Parce que là, on lit beaucoup de choses, comme quoi, quand tu recrutes, qu'en visio, c'est pas du 100% quali. Alors, je mets une tonalité, hein, c'est volontaire. Il y a une part de vérité, mais quand est-ce qu'on arrive à savoir si on a fait les bons recrutements? C'est quoi un turnover dans une boîte qui est passée de 30 à 130 en une année?
Il est évident que le turnover, il se regarde différemment dans un contexte normal et dans ce contexte-là.
Ouais.
Loin de moi l'idée de vouloir dire ce que c'est, parce que c'est très dépendant des environnements, etc., et c'est très contextuel, donc loin de moi l'idée de vouloir dire ce que c'est qu'un bon ou un mauvais turnover. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'un turnover à zéro, et là je suis un petit peu provoque, mais c'est pas forcément un bon indicateur, c'est pas un indicateur de succès total.
Ouais.
Parce que ça veut dire que quelque part peut-être qu'on challenge pas assez la qualité entre guillemets ou le fit, l'alignement entre les personnes qu'on a recrutées et les missions et ce qu'on attendait en termes de performance. Un taux de turnover trop élevé, évidemment, c'est synonyme que quelque chose a été dysfonctionnel. Ça peut être effectivement le process de recrutement en tant que tel. Donc ça peut être est-ce que j'ai bien établi les compétences dont j'avais besoin. Donc on travaille avec ce qu'on appelle des scorecards. Donc on fait un mapping assez précis des compétences dont on a besoin pour s'assurer que finalement on va recruter les bonnes personnes. C'est la qualité de ton process de recrutement. Est-ce que tu as les bonnes étapes avec les bonnes personnes et que tu évalues les bonnes compétences? Est-ce que ton process est trop long, trop court? Donc évidemment, il faut être vigilant avec ça. Regardez toujours les données pour t'assurer de voir est-ce que je perds des gens pendant le process de recrutement, est-ce que j'ai des gens qui refusent mes offres. Ça, c'est des indicateurs importants. Et après, là encore, on parle beaucoup des difficultés de recruter vite en start-up. Moi, je trouve que le vrai enjeu, il est sur l'après-recrutement. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est quelque part, quand on a des process qui fonctionnent et qu'on a une approche un peu... c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais un peu industrialisé du recrutement, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en place des process qui tournent. Recruter vite, c'est plus ou moins facile en fonction des métiers, mais c'est quelque chose qu'on arrive nous à faire. Maintenant, là, le vrai enjeu, il est en termes de changement culturel de l'équipe. Ouais. C'est pas pareil d'exister dans une entreprise de 30 personnes et une entreprise de 130 personnes. Demain, on sera 200. En fin d'année probablement, ça va forcer tout le monde à se repositionner. Et c'est un peu la beauté et la difficulté de la start-up, c'est que l'organisation, elle est en perpétuel changement. On oscille souvent en tant qu'employé de start-up entre arriver sur un poste, en 12-18 mois, avoir un poste qui devient trop grand pour soi, finalement arriver à un moment où on nous enlève une partie de nos responsabilités parce que c'est trop gros. Donc ce moment un peu de résilience où il faut se réinventer. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que ça fait un peu des champignons, c'est-à-dire que le moment, il faut aider les gens à accepter le moment où on va leur reprendre un peu pour pas les mettre en difficulté. Et souvent, ce qui se passe, c'est que 6 mois après, exactement. Et puis souvent, c'est ce qui se passe, c'est que 6 mois après, leur scope a déjà grossi, et donc ça refait ce que moi j'appelle des champignons. Mais j'explique souvent que à des personnes qui sont parfois frustrées de devoir avoir un manager qui vient au-dessus ou une organisation qui évolue, etc., leur expliquer que c'est un peu la joie, la beauté et le renoncement de la start-up, et c'est pour ça qu'on cherche toujours des gens qui sont, et ça fait partie de nos scorecards, très résilients en fait par rapport à
des gens. Mais vous avez un engagement, mais il y a un engagement collaborateur qui est ultra fort, on le voit notamment, je ne sais pas si vous avez en place une stratégie d'employé advocacy, mais sur les réseaux, etc., vous postez un truc, il y a 10 collaborateurs Luco derrière qui vont vous suivre, il y a un soutien de la marque qui est ultra fort, et donc ça veut dire beaucoup. Est-ce que déjà vous avez mis en place une stratégie par rapport à ça? Est-ce que, je ne sais pas, même des petits tips tout bêtes, et finalement, quand il y a un engagement trop fort, il peut y avoir un pendant, c'est d'avoir un droit à la déconnexion. Donc, absolument. Est-ce que ça, le droit à la déconnexion, c'est quelque chose que vous évoquez avec vos collaborateurs ou pas?
Absolument. Alors,
j'imagine que vous allez me dire oui.
Ben non, je vais te dire non. Mais je vais te dire que non, je vais être très. très, très honnête et je vais te dire où on en est avec.
Alors, bien sûr. Connectez-vous.
Non, alors surtout pas, parce que non, c'est un peu un des travers du télétravail, c'est que.
Et de l'assurance, là, pour le coup, parce qu'un sinistre peut intervenir n'importe quand.
Absolument.
On se disait juste avant, pardon, je t'ai coupé, mais.
Ouais, non, absolument. En fait, il y a deux questions. La première, est-ce qu'on a une stratégie d'employé advocacy et comment est-ce qu'on communique sur les réseaux? Je dois dire qu'on est assez pragmatique là-dessus. C'est évidemment quelque chose qu'on va apprendre à faire de manière un peu plus stratégisée, mais aujourd'hui c'est très pragmatique et je pense que ça tient aujourd'hui à l'engagement des équipes. Aujourd'hui, quand on
au soutien seul,
quand on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, quand on poste une news ou du contenu, la personne, l'équipe qui est en charge du contenu chez nous et qui est évidemment travaille tout son plan éditorial de manière plutôt très réfléchie, sollicite les équipes en fait pour savoir ceux qui veulent reposter. Mais on n'a jamais, enfin jusqu'à maintenant, on n'a pas souhaité le rendre. On a voulu garder un peu cette spontanéité tant que possible. Je pense notamment il y a eu pas mal de questionnements pour les startups ces derniers temps avec ce mouvement autour de balance ta startup, etc. Donc tous ces moments où les startups ont un peu frissonné, voilà, et où on s'était dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si jamais il y avait tout ce truc où il y avait des...
Ah, c'est toujours le grand.
J'espère
moment,
que je vais pas voir Luco demain parce que je vais pas aimer ça, mais bon, et en fait on s'est tous demandé ce qu'on ferait si on apparaissait dans les noms de ces comptes ou sur ces bad buzz. Alors, hier c'était Glassdoor, aujourd'hui c'est Balance ta startup. Et en fait, on s'est dit que le pire truc à faire, ce serait d'aller demander à nos employés de nous défendre, et que si demain ils ont envie de le faire spontanément, ce sera la meilleure preuve du fait que nos politiques RH et people fonctionnent. Mais qu'on n'avait surtout pas envie de forcer le trait, quoi, et de leur demander d'y aller spontanément, parce que je pense que le fake aujourd'hui, ça transpire un peu, quoi.
Et ça ressort toujours.
C'est visible, donc. Et puis je pense que ça fait des dégâts aussi en interne, de sentir qu'il n'y a pas d'authenticité ou que...
Le pragmatisme, en fait.
Ouais. Donc on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'est l'employé advocacy. Et puis, sur ta seconde question, qui était...
Comment on crée une marque employeur?
Je pense que comment on crée une marque employeur
de start-up... Tu n'as pas forcément de la créer, finalement.
Je pense que c'est les employés qui la créent, c'est les équipes. Et que c'est les policies, c'est de l'authenticité avant tout. Donc c'est vrai qu'on est sorti du
discours de preuve. Ouais.
On est sorti de cette marque employeur très étendard, je pense, où on avait des discours externes très assumés,
piliers,
on
y allait
à grand renfort de communication, de vidéos, etc.
Privilégier l'engagement.
Nous, notre marque aujourd'hui, c'est nos équipes qui, tu le disais assez justement, qui repostent notre contenu. C'est tout le contenu qui est écrit par nos employés, même par nos équipes. Par exemple, on a un blog, on a un compte Medium sur lequel on poste du contenu écrit. Et donc, on a des équipes techniques qui écrivent du contenu. On a les équipes People qui écrivent du contenu. On a nos chargés de relations clients qui écrivent du contenu. Et qui parlent de leur expertise, qui témoignent de leur expérience. Et c'est ça, en fait, ce contenu assez authentique. En fait,
Super.
Un dernier mot à dire sur les 70 personnes qui vont vous rejoindre d'ici décembre. Quoi, n'ayez pas peur du télétravail à 100% ou non, soyez...
Alors, on a senti qu'il y avait une vraie volonté des équipes de se revoir.
Ouais.
Et comme je disais, on ne croit pas au télétravail en tant que fin en soi. C'est un moyen d'émancipation, mais on ne veut pas supprimer les bureaux, très loin s'en faut. Donc on a réouvert les bureaux il y a une semaine. Alors on avait jusqu'à présent le droit à une journée par semaine par personne. Mm-hmm. On avait des jauges qui étaient de pas plus de 20 personnes au bureau. On a des très grands bureaux, donc... Mais on voulait faire attention, être vigilant. Et là, on a rouvert, étant donné qu'on a 40% des personnes qui sont en 100% de télétravail. Et en ce moment, on a à peu près... Je regardais ce matin, on a une cinquantaine de personnes qui est dans les bureaux. Donc, il y avait quand même une vraie volonté de revenir. Sachant que toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas en 100% de télétravail, qui veulent rester en télétravail jusqu'à au moins mi-juillet, peuvent le faire. On préfère être vigilant. Mais on sent qu'il y a quand même une vraie volonté.
Oui, il y a un besoin de déjeuner en terrasse.
De se revoir, de déjeuner en terrasse, la machine à café. donc, en fait, on sent que c'est important et on ne veut pas, par trop de... de précautionnisme, de volonté d'être trop précautionneux. On ne veut pas rater le coche de des retrouvailles et de voilà de du sentiment de bien-être des équipes qui est important et qui je pense est un moment important qu'on vit en ce moment.
Super. Merci. Merci Stella. Stella Walter, VP of People chez Luco. Luco en devenir d'être une licorne française qui va bientôt s'imposer comme une référence dans le secteur de l'assurance habitation 100% digital. L'assuré souscrit en 2 minutes et Luco s'occupe de résilier l'ancien contrat.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Je vous en prie. Merci à vous.
Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau généralisé.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job ?
Patati et patata.